Lundi soir à Caylus se tenait une rencontre avec comme intervenant André Bellon, président de l'association pour une constituante, et Michel Lalloux, économiste et philosophe de l'éducation, auteur de Démocratie évolutive, et le dernier, Dépolluer l'économie. La conférence débat permettait de poser des questions aux conférenciers. Le grand thème, c'était démocratie économique. Que peut faire la société civile? Alors, de la même façon que nous avons sur une radio de service public une émission d'un quart d'heure tous les midis et demi, hein, les carnets de campagne, et souvent on met en valeur l'économie sociale et solidaire, est-ce que c'est une des réponses à apporter à la fois à une autre monnaie, à la fois à une démocratie, j'allais dire, dans les entreprises, et à la fois une dépollution de l'économie? Vous voyez, j'essaie de vous marier alors que l'idée, c'est quand même que on doit repenser complètement notre manière de fonctionner en tant que citoyen.
Ah oui, repenser la manière de fonctionner, d'autant plus qu'en tant que citoyen, j'ai l'impression qu'on fonctionne pas du tout, donc on peut...
Comment? Mais vous plaisantez, il y a des élections dans moins de 3 semaines.
Oui, d'accord, si vous appelez ça citoyenneté, je veux bien. Donc... Moi, j'aime bien le titre « Démocratie économie » parce qu'il peut vouloir dire énormément de choses. Le problème, c'est comment le lit-on ? Il y a des gens qui disent « Bon, ben, il faut que la démocratie s'étende encore sur de nouveaux espaces, et en particulier sur l'espace économique, ce qui serait d'ailleurs une excellente idée. » Mais on peut le lire aussi à l'envers. Comment se fait-il que le discours économique, je ne dis pas obligatoirement l'économie, mais le discours économique soit devenu un espèce d'obstacle à la démocratie? C'est-à-dire, comment se fait-il que tout ce qui est aujourd'hui économie ne soit que empêchement, obligation pour le citoyen? C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de rien choisir, sauf peut-être la plante qu'on va mettre devant la mairie, ce qui est effectivement passionnant, mais enfin, un peu limité.
Est-ce qu'une économie est une science, déjà?
Alors, si vous me demandez à moi, je vais répondre non. Une science, c'est quelque chose qui a franchi un seuil qui fait qu'elle est prise en charge par la société tout entière, non comme une obligation, mais comme quelque chose qui peut se discuter et qui s'appréhende. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas, c'est au contraire un carcan. Un carcan qui fait qu'on ne peut pas faire. Regardez la manière dont l'Union européenne impose les déficits budgétaires, les obligations monétaires, la gestion de la dette. Les pays ne sont plus maîtres de leur propre budget, c'est quand même absolument ahurissant, parce que dans la définition même de la démocratie, au départ, la construction du Parlement, en particulier en Angleterre, mais ensuite en France, c'est le contrôle du budget. Maintenant, on le contrôle pas. On contrôle qui s'inscrit dans des règles qui viennent d'ailleurs.
Ouais, viennent pas d'ailleurs. Les États les ont fixées quand même par des traités.
Oui, bien entendu. On peut dire ça, les choses comme ça. Moi, je vous ferai remarquer.
C'est une question.
Pour moi, qui ai été un de ceux qui ont milité contre le traité constitutionnel européen, donc
et vous avez été majoritaire.
2005, et
vous
qui
avez
ont gagné.
Été majoritaire, oui.
Le fait qu'on les fait passer quand même, ça me paraît difficilement assimilable à un geste démocratique. Ça me paraît très difficile, en tout cas. Non, la démocratie, c'est quoi? C'est deux choses. C'est, premièrement, c'est fondamentalement, pour moi, c'est lié à l'humanisme, la démocratie. La vraie. Pas les apparences qui font croire qu'on y est. Non, la vraie. C'est lié à l'humanisme, c'est-à-dire la liberté individuelle d'un côté, d'ailleurs la capacité de dire non en particulier, et la volonté collective. Et la volonté collective qui s'exprime par le débat, par la contradiction, et par ce qui fait un peuple. Un peuple, c'est un élément de débat et de contradiction. Or, est-ce que c'est encore ça aujourd'hui?
Michel Lalloux, si vous voulez poser des questions à André Bellon, puisque je crois que vous ne vous pratiquez pas comme ça dans les conférences habituellement. Là, vous étiez à Caylus lundi soir, invité par la même association, Lien en Pays d'Oc, pour débattre justement de qu'est-ce qu'on peut jouer dans l'économie, vous avec la préoccupation que l'économie nous pollue la vie.
Oui, vous avez posé la question, est-ce que l'économie est une science ? Il y a un économiste qui a répondu à cette question récemment, il est très connu, il s'appelle Steve Keen, et il vient de publier un livre qui est une remise en cause complète de tout ce qui est enseigné dans les universités et dans les hautes écoles économiques, pour montrer que, au fond, il n'y a aucun fondement à toute la théorie qui est enseignée actuellement.
Et de penser peut-être pour Bernard Maris, qui disait un petit peu la même chose.
Oui, d'une autre, par une autre approche, par un autre angle, oui. Le problème, c'est qu'on appelle, l'économie des choses qui ne sont pas l'économie.
Ah.
Ouais. C'est comme si on disait que l'agriculture, c'était des nitrates plus des phosphores plus etc. plus.
Il y en a pour qui c'est le cas. Hein.
Et bien sûr, mais là on est en pleine confusion.
Oui, c'est pas le vivant.
On est en pleine confusion parce qu'on ne part, on ne part pas des lois dans le cas de l'agriculture, des lois de la plante, et de dire bon, bah, de quoi une plante a-t-elle besoin pour se développer sainement et nourrir sainement un être humain. On part pas de ça, on part de besoins de rentabilité et qui sont extérieurs au monde végétal. Et avec l'économie, c'est la même chose.
Ça veut dire quoi? Parce que si je reprends ce que dit André Bellon à propos de la démocratie, où il met en premier l'humanisme, c'est un peu la même chose que vous diriez. Vous, si on enlève ce pourquoi c'est fait, effectivement, on peut trouver des algorithmes qui font que ça, c'est la meilleure façon de faire pousser du blé, la meilleure façon de d'élever des volailles ou des porcs,
oui,
indépendamment de tout le reste.
Si on pousse la comparaison un peu plus loin, on va dire, ben, la meilleure façon d'avoir un bon rendement économique, eh bien, c'est d'avoir des capitaux qui sont prêtés par telle banque ou par tel fonds d'investissement.
Et des robots pour travailler.
Oui, ça c'est une autre question. On pourra y venir, hein, peut-être. Hein. J'évite de faire des raccourcis. Hein,
moi j'adore ça. Moi je suis animateur de radio.
Bien sûr.
Non, je répondais, vous me disiez d'emblée capital, moi je vous répondais travail. Vu sous le même angle, c'est-à-dire du travail qui ne s'applique pas, qu'il n'y a pas de RTT.
Le travail, selon la façon dont il est considéré, si on le considère comme une marchandise, oui. Le travail, comme un marché du travail, eh bien il pollue aussi à ce moment-là. Il devient un facteur de pollution. Alors que si on sort le travail de l'économie, comme on sort le capital de l'économie, ou comme on sort la monnaie de l'économie, c'est ce que je propose, à ce moment-là, ils jouent leur rôle, ils jouent leur plein rôle, qui est d'être au service de l'économie et non pas d'être l'économie elle-même.
C'est la clé de votre pensée, l'idée que l'argent, c'est pas forcément la monnaie, le capital, c'est pas forcément des fonds.
Le problème, c'est quand on commence à vendre une chose qui est au service de quelque chose et qu'on en fait une marchandise, qu'on la vend. Donc, si on vend de la monnaie, pervertit la monnaie. Si on vend le capital en bourse, par exemple, les actions, on pervertit ce qu'est le capital, qui est un moyen de permettre à une entreprise de pouvoir démarrer.
Alors, si je vous suis, ça veut dire que le capitalisme en soi est une perversion.
Pas le capitalisme. La pensée capitalistique. Le capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire? Du capital, c'est nécessaire pour pouvoir démarrer une entreprise. Mais d'où vient-il ce capital? Comment l'obtenir et comment faire en sorte que il joue simplement son rôle de levain, comme du levain dans une pâte, et pas plus que ça.
Hein. Pas plus que ça, ça veut dire que quoi? On n'hérite pas alors? On n'est pas un Lagardère qui hérite de ce qu'a fait le Lagardère d'avant, ou un Dassault qui hérite
de
ce qu'a fait le Dassault d'avant.
Lagardère Aquilus, c'est amusant.
Oui, bon clin d'œil.
Oui, ce que vous me dites, en fait, on est bien obligé de constater que la plupart des capitaux arrivent déjà de la non-abolition de la propriété en 1789 en France.
Oui,
on l'a protégé.
Il faut discerner. Hein. C'est pas la propriété en elle-même qui est un problème, dans le sens de par exemple posséder un appartement ou une maison, ou une voiture.
Oui, non, la propriété c'est pas des moyens de production.
Mais la propriété des moyens de production, elle est un problème qui n'a pour l'instant pas été résolu encore. Sauf que je traite la question dans mon livre Démocratie évolutive. Parce que ça fera l'objet du deuxième tome de mon livre en partie, c'est qu'on ne pose pas la question fondamentalement comme elle devrait être posée. Ceux qui ont les moyens d'investissement, qu'on appelle les capitalistes, disent, ah ben sans nous, vous n'avez pas de moyens de production, donc il n'y a pas d'entreprise.
Donc pas d'emploi, voilà. C'est nous qui créons les emplois.
Et les tenants de l'autre côté du monde du travail vont dire, bah oui, mais si nous ne travaillons pas, bah il n'y a pas d'entreprise non plus. Et en fait, on réduit, comme dans beaucoup de cas, à un affrontement bipolaire, alors qu'en fait, la question est multiple. Et je montre dans Démocratie évolutive qu'il y a 7 facteurs qui permettent que l'entreprise se développe.
7. Donc,
oui, on peut pas dire qu'il y a simplement le travail, on peut pas dire qu'il y a simplement le capital. Il y a d'autres facteurs. Et que donc, à ce moment-là, ça veut dire que les bénéfices de l'entreprise appartiennent à ces 7 facteurs et c'est ceux-là qu'il faut rémunérer.
Oh, mais ça, les 7 facteurs, ça n'est pas dévoiler un grand secret que de les énumérer, au moins même si je suppose que chacun mérite un grand développement.
Ça demanderait bien sûr un peu
Je sais pas, par exemple, est-ce que vous êtes plus pour dire qu'il faut satisfaire un marché quand on est une entreprise, pour pouvoir continuer à exister, ou satisfaire des besoins sociaux. Quelquefois, c'est...
Moi, je pars des faits, des phénomènes directement. Hein. Si vous n'avez pas de route sur un pays, ou un réseau routier en très mauvais état, le développement économique va s'en ressentir, et donc les bénéfices que feront les entreprises vont s'en ressentir. Donc les routes participent autant à la formation du bénéfice que le travail...
Que le réseau électrique, que les voiries,
que l'éducation, l'école, et puis l'université, etc., que la recherche, et même la police participe. Ça peut surprendre, mais si vous avez un fonctionnement normal de l'organisation de la police et de la justice, eh bien vous avez un pays qui fonctionne mieux aussi sur le plan économique.
Alors le modèle chinois a une police très développée.
Oui, mais tout peut être perverti.
Oui.
Tout peut être perverti. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par une police qui fonctionne correctement.
Alors, moi, j'essaierai quand même de vous faire réagir l'un et l'autre. Par exemple, comment vous réagissez? Est-ce que vous avez lu Michel Leloup? Vous vous dites,
il n'y a rien qui vous fait grimper à l'arbre.
Il n'y a rien qui vous
par
fait
contre,
imaginer.
Par contre, je peux préciser une ou deux choses, si vous voulez.
Oui.
D'abord, pour rester sur votre question de tout à l'heure, c'est-à-dire, l'économie est-elle une science? Bon, moi, je pense que non, du moins dans sa définition actuelle. Bon, moi qui suis d'origine mathématicien et ensuite, ayant fait un troisième cycle d'économie, ce qui m'a frappé, c'est l'introduction des maths en économie. On pouvait penser, dans une vision un peu simpliste, que c'est une manière d'en faire une science. Pas du tout. C'est une manière d'imposer une pensée. C'est-à-dire que les maths deviennent un instrument d'oppression. C'est absolument ahurissant dans la mesure où la mathématique, a priori, est plutôt cartésienne. Un instrument de libération de la pensée.
Libératoire.
Donc là, il y a une contradiction qui m'a toujours...
Ça n'empêche pas d'être un dogme, quelquefois, quand même. C'est ce que vous décrivez.
C'est l'utilisation des maths.
C'est l'utilisation des maths qui en fait un dogme. Ce n'est pas les maths. Mais justement, ils sont utilisés comme moyen d'oppression. Ce qui est dramatique, du moins pour moi. Vous disiez ensuite, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais enfin je pense qu'il est implicite dans ce que dit Monsieur Laloux. C'est le mot de bien public. Parce que vous parliez de la monnaie, des actions, etc. Un des problèmes de la période actuelle, c'est qu'un certain nombre de choses qui étaient considérées jusqu'alors comme des biens publics, la monnaie, c'était un instrument régalien. Ça appartenait à l'État, l'État en théorie, après on peut en discuter, l'État en théorie le représentant de la collectivité, enfin du moins l'instrument de la collectivité. Aujourd'hui on a privatisé la monnaie, ce qui n'est plus du tout la même chose. De même les actions. On peut dire il faut des actions, etc. Oui, certes, mais on en fait quoi? On les gère comment? Par exemple, un économiste qui n'est en général pas considéré comme un abruti, Keynes, qui a quand même été le grand économiste de la deuxième moitié après la Deuxième Guerre mondiale, le disait, il ne faut pas permettre que les actions, lorsqu'elles sont achetées, puissent être revendues avant 2 ans. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elles soient des instruments de spéculation. Il faut qu'elles soient uniquement des instruments d'accompagnement, du développement et de l'investissement.
À quoi Tobin pouvait ajouter, ou alors elles sont taxées à max.
Oui, on pourrait rajouter ça, éventuellement. Oui, pourquoi pas, oui.
Je pense qu'on n'aborde pas...
Vous voyez, donc, cette notion de bien public, moi, me paraît tout à fait fondamentale. Le problème, c'est que pour qui est bien public, réellement, Il faut qu'il y ait démocratie. Il faut qu'il y ait des citoyens. Et quand le citoyen n'a plus aucun choix et que la démocratie donc ne fonctionne pas, quelque part, le bien public, c'est un mot.
Moi, je pourrais vous envoyer un mot qui est un gros mot, hein, parce qu'on l'employait dans les années 70, mais aujourd'hui, c'est un gros mot. L'autogestion. Est-ce que ça marche, ça? Pourquoi ça marche pas?
On parle de l'autogestion à quel niveau?
Au niveau de l'entreprise.
Au niveau de l'entreprise?
Oui. C'est aberrant d'imaginer du capital social.
Je pense qu'il faudrait d'abord clarifier qu'est-ce que c'est que le capital. Ah. Avant d'aller déjà à une stratégie.
Et vous savez qu'il y a un juif allemand qui a essayé, et puis ça a fait un ouvrage très épais quand même.
Bien sûr, mais il a vu la question justement par rapport au travail, et il a pas vu les sept facteurs que j'ai esquissé tout à l'heure et qui, alors, et voilà, qui manquent.
Michel Laloux a lu Marx, mais c'est pas réciproque.
Je suis désolé, j'aurais dû l'écrire avant.
Dites-moi les sept facteurs.
Je crois qu'il faudrait déjà regarder, suivre du regard que fait le capital quand il entre dans une entreprise. Et à ce moment-là, on regardera, est-ce qu'on a besoin du capital privé? Est-ce qu'on a besoin d'un autre mode de financement? Le capital, quand il va dans une entreprise, c'est assez évident, eh bien, il va servir à acheter des machines, à acheter des matières premières, à payer les premiers salaires, etc., etc. Donc, ce capital, il quitte l'entreprise très vite. Quelques semaines, il est dépensé. Donc, de dire qu'il est dans l'entreprise, c'est déjà une question. Parce qu'il existe sous une forme de machine, de matière première, etc. Mais même déjà les salaires, ça quitte l'entreprise. Et ce capital, il joue le même rôle que joue un prêt qui serait fait par des particuliers ou par une banque. La différence, c'est que le prêt est remboursé, alors que le capital, officiellement, n'est jamais remboursé. Il reste toujours inscrit dans la comptabilité de l'entreprise.
Voilà, mais ça, éternellement. C'est une écriture comptable, ça. C'est une manière de montrer des bilans d'une entreprise. Il y a un actif.
C'est pas seulement ça. Ça va beaucoup plus loin parce que ça donne un droit éternel sur la propriété des bénéfices de l'entreprise.
Voilà.
Et là est le problème.
Et souvent sur la décision.
Bien sûr. Avec, bien sûr, un pouvoir d'influence sur les décisions d'entreprise qui est extrêmement grand.
Ce qui nous donne des aberrations au passage. Parce qu'on a des exemples d'entreprises qui sont vendues alors qu'elles n'avaient rien. Je pense par exemple, je ne sais plus quelle chaîne de la TNT qui essayait de vendre une autorisation d'émettre qui ne lui appartenait pas.
Oui. C'est français, c'est sûr. Je sais plus comment.
C'est aberrissant.
Non, mais on arrive, on peut le regarder sous tous les angles, on arrive à des aberrations. Donc ça, c'est un des premiers facteurs qu'il faut sortir de l'économie. À partir du moment où on reconnaîtra la monnaie, et là je rejoins André Bellon là-dessus, la monnaie comme un bien public, c'est-à-dire un service public de la monnaie, mais qui n'a pas besoin d'être effectué par l'État.
Oui, ça peut discuter.
C'est-à-dire l'organisation est étatique, centrale, unitaire. La société civile est capable de faire ça. Et ça, c'est ce que je développe dans le premier tome de Dépolluer l'économie. La société civile est tout à fait capable, et j'ai essayé de proposer des outils qui permettent une gestion de la monnaie par les acteurs de la société civile.
C'est quelque chose qui est remarquable dans votre travail, c'est que vous vous contentez pas d'être un observateur au bord du fleuve et de décrire comment ça se passe, c'est que vous essayez de faire des préconisations, des choses presque militantes.
Alors ça c'est effectivement...
De ce point de vue-là, vous rejoignez André Bellon.
Ce qui m'intéresse le plus, et je crois qu'on se complète très très bien là-dessus, hein, c'est que les livres d'analyse de ce qui ne va pas, il y en a des rayons entiers dans les librairies.
Pourquoi c'est justement ceux-là qui sont au programme dans les universités et pas ceux qui disent à des préconisations, à des choses à discuter au moins?
Parce que
comment sortir, comme
le montre Steve Keen, il faudrait avoir le courage de s'observer soi-même en train de réfléchir et d'enseigner, comme le font les universitaires, d'enseigner des choses qui ne sont jamais vérifiées par la réalité. Alors, quand une chose est enseignée, qu'elle ne se réalise jamais, elle devient une idéologie. Et c'est de ce dans quoi nous sommes actuellement. On enseigne des idéologies.
Ça, c'est votre formation qui vous fait dire ça. Une formation qui devait aboutir à des réalisations concrètes, non?
Ben, c'est, je crois, un intérêt profond pour la réalité, quoi.
J'avais ça en commun.
Vous savez, je crois que c'est Lefort qui disait « Une idéologie, c'est une pensée qui se prend pour la vérité », tout bêtement.
Vous seriez d'accord avec ça?
pensée qui se prend pour la vérité. Alors je rajouterai une idéologie qui a réussi, c'est une pensée que tout le monde prend pour la vérité.
Ah oui.
Et là, elle a réussi. Certains appelleraient ça une religion. Mais d'une certaine façon, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Et c'est un peu ça aujourd'hui, la pensée économique officielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas d'économistes qui disent autre chose. Hein. On en connaît plein, mais qui sont considérés comme marginaux.
Et pourquoi, ils sont considérés comme marginaux à la fois par l'université, quelquefois.
Par les médias.
Mais alors par les médias, à 98%.
Oui, mais enfin, bon, je disais tout à l'heure en rigolant, quand on voit que, quand on parle de philosophe, on parle de Bernard-Henri Lévy, effectivement, on peut dire n'importe quoi.
Mais non, on peut parler d'André Glucksmann, quelquefois.
cela étant, pourquoi nous, on a des présupposés qui se rapprochent de toute évidence, mais on a pris un autre chemin, c'est-à-dire, il faut une constituante, pourquoi? Parce que la constituante, pour nous, à tort ou à raison, hein, est le symbole du rassemblement pour reconstituer le peuple, donc cette espèce de collectif qui a théoriquement le pouvoir, puisque c'est lui le souverain, et de reconstituer le peuple autour de son bien commun, qui sont les institutions, c'est les siennes quand même. Or, ce n'est plus les siennes aujourd'hui. Elles sont utilisées au contraire pour dévoyer la démocratie. Donc, la constituante, bon, c'est vrai que c'est très symbolique. Mais en même temps, ce symbole, c'est une manière de dire, vous êtes le souverain, c'est à vous de poser la question, et c'est à vous de vous réapproprier ce qui vous appartient.
Alors ça demande un peu, comme vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, parce que moi, je suis convaincu que pour l'autogestion, il faut des autogestionnaires. Mis à part des moyens de production, un marché, etc. Mais il faut des autogestionnaires. Et à un moment donné,
ça part de là.
Pour avoir une authentique démocratie, il faut des citoyens.
Oui.
Pas des supporters de foot.
Oui, écoutez, il y a dans cette remarque que je partage, mais et en même temps qui me gêne toujours, parce que quand on dit ça quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un peu de mépris du citoyen qui va jouer? À s'énerver dans les matchs de foot. Il n'est pas que ça.
Non, il peut
être. Et puis, est-ce qu'on lui
aussi
donne une autre occasion de s'exprimer?
Oui, alors ça, c'est une bonne question.
Et toutes ces questions-là, elles existent. Quelles sont les possibilités qu'il a d'exprimer ce qui est son fondement, si on croit à l'humanisme, comme j'y reviens, c'est-à-dire son fondement de citoyen, en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre du collectif? Parce qu'il y a toujours les deux, le citoyen, c'est pas Robinson Crusoe, hein. C'est quelqu'un qui participe d'un collectif. Éventuellement, en s'opposant d'ailleurs. Mais il y est, qu'il le veuille ou pas. Quel moyen lui donne-t-on d'exprimer ça aujourd'hui? Sauf, dans le cadre des institutions françaises, le choix, tous les 5 ans, d'un président de la République qui ensuite fait ce qu'il veut.
Oui, enfin, le choix d'entériner un candidat
de candidats qui ont été sélectionnés par des méthodes telles que on peut imaginer, on est sans doute pervers quand on dit ça, que la majorité n'aurait pas sans doute pas pensé à celui-là.
Oui, d'ailleurs, quelquefois, on a des sondages deux ans avant où ils perdent tous, en fait. Ils perdent tous, mais à la fin, on sait qu'il n'y en aura que deux.
On est bien conscient que le mot constituant est un mot compliqué, qu'il faut l'expliquer, mais en même temps, pourquoi on l'a pris? On l'a pris pour deux raisons. La première, c'est qu'il participe de l'histoire de France. Il y a eu 6 constituantes en France, 89, 93, 1848, 1875, et 2 fois en 1946, d'ailleurs. Bon. Donc, il participe d'une histoire, donc il s'intègre dans cette histoire. Et deuxièmement, parce que c'est, du moins à mon sens, la seule solution à part le régime autoritaire. C'est pour ça que j'avais fait l'article dans Monde Diplomatique qui s'appelait Bonapartisme ou Constituante. Et que je crois qu'on va être contraint à ce choix-là. Voilà.
Michel Lalou.
Oui, j'aimerais ajouter ce qu'a dit André Bellon, le fait que être citoyen, c'est pas simplement on a 18 ans et on acquiert un droit. Être citoyen, ça veut dire aussi apprendre la citoyenneté. Et selon, si je peux paraphraser un célèbre proverbe, c'est en citoyennant que l'on devient citoyen. Et ça demande du temps, ça demande de l'exercice. Donc on peut se tromper aussi. On peut se tromper à un moment donné, mais on va corriger la fois d'après. Et c'est par là qu'on va développer des nouvelles facultés de citoyenneté. Et ça, on en a bigrement besoin. Donc l'argument qu'on entend souvent, oui, mais le citoyen n'est peut-être pas mûr, il sera jamais mûr si on lui donne pas l'occasion de citoyenner.
Mais quand l'éducation nationale essaie de réformer parce qu'elle se rend compte que vraiment il y a trop d'écart entre la connaissance des jeunes ados du monde qui les entoure et tout ça, et qu'elle introduit dans ses programmes de l'instruction civique, enfin moi j'ai connu ça gamin, c'était des cours de morale et d'instruction civique, bon je me souviens qu'on avait les institutions, comment ça marche, quels sont les niveaux d'élection, etc., et même l'histoire du suffrage censitaire, enfin on compare avec des choses qu'on a connues dans l'histoire. Moi je discute avec des jeunes de 19 ans aujourd'hui, ils savent pas dans quelle région ils vivent, ils savent même pas ce que sont des conseillers régionaux, non, ni à quoi ça va servir.
Ça
je vous parle
quoi,
de ça parce que c'est l'actualité.
Ça prouve quoi, une chose comme ça? Ça prouve que d'enseigner de cette façon-là n'est pas la bonne méthode. C'est-à-dire qu'il faudrait passer par d'autres formes. Et quand on enseigne ces choses-là à un jeune qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans, est-ce que c'est le bon moment pour lui parler de ces choses-là? Et quand il a été, pardonnez-moi l'expression, défloré sur ce sujet-là trop tôt, après... Il a l'impression qu'il connaît, qu'on lui rabâche, et c'est ce qui est fait dans les programmes. On ne fait que répéter chaque année les mêmes contenus. On en ajoute, bien sûr, mais on revient tout le temps. Alors les élèves ont l'impression que, d'une certaine façon, on les endoctrine. C'est leur vécu, même s'ils l'expriment pas comme ça. Alors que ce n'est pas de cette façon-là, le verbe citoyenner, je ne l'employais pas de cette façon-là. C'est pas en chargeant la tête des élèves avec des théories qu'on va les faire qu'ils vont devenir des citoyens. C'est par le fait qu'on remet les choses entre les mains de la société civile et que là, on peut s'approprier les actions à faire. Si on les délègue à un État omnipotent et omniscient, on obtient un désinvestissement et on voit ce que ça provoque aujourd'hui. Donc, à mon sens, il faut commencer par remettre entre les mains du citoyen la possibilité de faire lui-même les choses. C'est ce que j'appelle, par exemple, des services publics de la société civile.
Est-ce que quelque part on n'a pas été trop confortable jusque-là, en ayant toujours quelqu'un qui a à s'occuper de ça? C'est la mairie qui balaye devant ma porte, c'est la communauté de communes qui ramasse les poubelles, c'est pas moi en tout cas,
Ça commence là. Ça commence là, oui. Et on voit les pays où ils ont développé une très grande conscience, mais pas parce qu'ils l'enseignent à l'école, mais parce qu'ils le font. Prenez le tri des déchets dans des pays comme l'Allemagne ou la Suisse, mais ce sont des choses qui se font naturellement.
Oui, moi, quand on voit des pays qui ont des hivers très neigeux, ils attendent pas qu'on vienne leur déneiger la rue, les gens. Ils sortent avec la pelle. Alors que nous, on est toujours en train dans les médias, de protester. Comment le gouvernement n'a pas prévu? Ah là là, j'ai pas pu rouler.
Et oui, mais il y a un désinvestissement tragique en France. Et ça, c'est ce que disait André Bellon tout à l'heure. C'est affligeant de voir le désinvestissement des citoyens. Mais pourquoi? Parce qu'on leur demande seulement leur avis tous les 5 ans. Et en plus, on sait que de toute façon, cet avis ne sera pas suivi. Et non seulement ça, il est impossible à suivre. Parce que vous pouvez être d'accord avec une partie d'un programme d'un président, mais pas forcément avec le reste. Alors, est-ce que vous mettez un quart ou un huitième de bulletin de vote dans l'urne? En fait, quand on pousse la chose dans sa logique jusqu'au bout,
on s'aperçoit que la plupart du temps, on a éliminé l'adversaire. On vote pas pour un programme.
Bien sûr, mais ça conduit à ça.
C'est
ça
le moins pire.
C'est une élection par défaut.
Oui.
Une élection présidentielle, ça c'est une évidence. De toute façon, combien fait l'heureux élu in fine au premier tour? Allez, 20%.
Oui. Bon, mais c'est quand même
20% de ceux qui votent.
Ouais, Oh là là. Donc ça fait pas
ce
beaucoup.
Ce qu'il doit faire, allez, 14-15.
Est-ce que vous vous souvenez, juste avant la chute du mur de Berlin, quand il y avait le monde en deux blocs, avec deux philosophies qui s'opposaient, la liberté et l'opulence, l'abondance, et la rigueur avec un homme un peu plus, comment dire, collectif, pour aller vite. Hein. Et puis un beau jour, on nous a annoncé la fin de l'histoire. C'est-à-dire que tout était maintenant libéral, donc libéré. Hein, on nous vendait ça, et les individus retrouvaient plus de dimension collective, d'alternative construite à laquelle adhérer. Est-ce que quelque part ces alternatives reprises en miettes sont pas en train de se réélaborer tout doucement, comme un puzzle? Enfin, un puzzle, non, parce que c'est dessiné d'avance et on recherche les morceaux, mais un puzzle à construire.
C'est le problème, justement, c'est que on se cherche entre l'aspect plus social et collectif et l'aspect libéral ou
la liberté individuelle,
mais dans l'économie, serait ce qui conduit au libéralisme. Hein. Et au fond, le débat est comme chanté, on dirait en physique. Hein. Il a comme été coupé par la chute du mur de Berlin. Et maintenant, on a un libéralisme triomphant et de façon arrogante. Hein. Et il n'y a plus suffisamment de réflexion qui permettrait d'opposer quelque chose à ce libéralisme. Je parle là au niveau général ou au niveau macro-social. Par contre, on voit apparaître sur le terrain micro et mezzo-social plein d'initiatives, ça pullule partout, et des initiatives très intéressantes, où on voit que le citoyen et la société civile est en train d'essayer de se réapproprier les choses. Et on a une lutte entre les deux, c'est David contre Goliath. Alors, moi, en général, c'est David qui gagne.
Hein.
Donc, c'est ça qui me rend plein d'espoir.
Moi, j'aimerais vous entendre dire un mot sur un mouvement qui me tient à cœur, c'est le mouvement coopératif. Dans les années 70, il était balbutiant en France, même s'il y avait des endroits où il était plus développé qu'à d'autres, mais on avait quand même les coopératives qui étaient créées à partir de faillites, pour des raisons ou une autre, d'un patron, une entreprise familiale qui n'a pas trouvé succession, ou un marché où les gens ont vendu, bon, finalement, les salariés reprenaient. Et puis des coopératives ex nihilo, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des gens qui avaient une idée de marché, mais qui voulaient quand même travailler sur des principes d'égalité, de salaire, de responsabilité, de décision. Bon, les deux ont fait leur chemin. Aujourd'hui, on parle d'économie sociale et solidaire. Il y a des coopératives d'activité possibles. On peut même porter des salariés le temps qu'ils réalisent leur projet. Est-ce que tout ça va dans le même sens ou finalement c'est une économie micro, de micro-projets, mais quand on les additionne, on s'aperçoit qu'ils répondent à des besoins sociaux et que c'est des emplois pas délocalisables, ça.
Si vous voulez, le problème des tentatives de ce genre, moi je trouve extraordinairement sympathique, hein, c'est que à quel moment une initiative comme celle-là qui s'oppose dans son esprit, hein, dans sa philosophie au système dominant a-t-elle une chance de perdurer sans que le système dominant s'écroule? Voilà, ça c'est un problème vieux comme le monde, si je peux dire.
Oui, et là, hélas, on a l'exemple ici à Verrerie aux Prières d'Albi. Hein, qui a été racheté par Saint-Gobain, alors
oui,
qu'on n'imaginait pas une coopérative pour être rachetée.
Et oui.
Ce que vous disiez tout à l'heure. Bah, pourquoi le capital est-il achetable?
La coopérative Verrières, fondée par Jaurès, elle a eu quelques problèmes aussi après.
Mais oui.
Bon. Donc, c'est tout le, on peut pas, il est bon qu'il y ait des initiatives parcellaires, ça ne peut pas faire oublier qu'il y a un système global. C'est comme ça. Bon. Donc, il faut bien parler des deux.
En même temps, ça peut montrer une direction, parce que vous m'avez pas répondu sur le concept d'autogestion.
Non, mais je dis, il est bon. Il est bon au sens où ça peut servir de symbole et indiquer une voie. Bon. Et cette voie peut devenir majoritaire. Simplement, il faut savoir que c'est difficile, parce qu'on s'oppose. Il faut pas croire que le système va le laisser vivre. Voilà. Par définition, là, il y a un conflit. Par principe. C'est pour ça que, quand vous disiez l'histoire de la fin de l'histoire, si j'ose dire, hein, 90, hein, Fukuyama, machin et truc, c'était pas la fin de l'histoire. C'était un des deux systèmes à gagner, point final. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Bon, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'avait pas autant gagné que ça. Hein, c'est ça qui se passe. Et que même sur le plan de la paix, franchement, c'est pas une brillante réussite. Loin de là.
Oui, sur le plan de la répartition des richesses dans le monde
en théorie,
non plus.
En théorie, son point clé, c'était la paix. Le reste, il n'en parlait pas. Après, c'est nous qui pouvons en parler.
Oui, parce que depuis 90, on ne peut pas dire que la paix est régnée partout.
Et à partir du moment où on remet en cause son fondement principal, ou du moins il le remet lui-même en cause, il est plus simple de parler du reste. Et donc parlons-en, justement, les inégalités, hein, la destruction d'une partie de la planète dans des conditions stupides, hein, les problèmes de mortalité épouvantable d'un côté, de natalité anarchique de l'autre, enfin, d'une démographie qui n'a pas grand sens et qui a abouti à ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, d'une certaine façon. Donc tout ça, ça prouve bien que rien n'était fini. Et qu'au contraire, à croire que c'était fini, on a empêché qu'on puisse réfléchir à la manière de gérer la suite.
Michel Laloux, moi j'aimerais bien vous entendre sur la question de l'autogestion dans l'entreprise, du mouvement coopératif, de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est sûr que c'est des micro-projets qui sont basés sur le même principe, mais sur les questions fondamentales que vous donniez, un entrepreneur qui a besoin d'un fonds de roulement, qui a besoin d'investir dans des machines, de trouver un marché, de faire du marketing, enfin tout ce qu'il faut pour que après il ait des bénéfices qui rentrent et qui rémunèrent les porteurs de capital. Si c'est les salariés eux-mêmes qui sont porteurs de ce capital, on ne peut pas le mettre sur un marché mondial. Il n'est pas question que ça devienne des actions. Ce sont des parts sociales.
Oui, mais on n'a pas forcément changé complètement le fond du problème. C'est la question à qui appartient l'entreprise. Est-ce que l'entreprise appartient aux salariés ou est-ce qu'elle appartient aux détenteurs des actions? Ou bien est-ce qu'elle est un bien commun? Est-ce qu'elle appartient à l'ensemble de la société civile? Je ne dis pas à l'État. Hein? Et c'est cette question-là qu'il faudrait, à mon sens, aborder à partir du moment où on regarde ce dont je parlais, les sept facteurs. Que après on le fasse sous une forme coopérative, ou que ce soit un entrepreneur ou un groupe d'entrepreneurs qui font l'entreprise et qu'ils trouvent des collaborateurs, la forme après que cela prend est pour moi un deuxième temps. Je dis pas qu'elle est secondaire, mais c'est un deuxième temps. Le premier temps, c'est d'abord de bien voir comment l'entreprise est considérée comme un bien commun. Et ce bien commun, à qui va-t-il être transmis si, par exemple, l'ensemble des fondateurs part à la retraite? À qui va-t-on le transmettre? Sous quelle forme? Ce sont ce genre de questions qu'il faudrait aborder et pas se enlever une idéologie pour en reprendre une autre. C'est-à-dire de dire l'autogestion est la solution à tous les problèmes. C'est une forme qui a toute sa valeur dans certaines circonstances. Dans d'autres circonstances, il vaut mieux peut-être avoir un groupe de personnes, les entrepreneurs, qui vont créer des relations avec les collaborateurs et développer l'entreprise parce qu'ils ont un projet qu'ils veulent développer. Et ils s'associent à ce moment-là avec les collaborateurs qu'ils choisissent. Sous quelle forme, ça, ce serait à débattre. Hein. Mais, vous voyez, pour moi, l'autogestion, c'est presque mettre la charrue avant les bœufs, de répondre à cette question. Ça viendrait, pour moi, dans un deuxième temps.
Et pourtant, ça pose d'emblée la question que le capital ne peut pas être privé, il est forcément collectif. Hein, s'il n'y a pas de transmission de parts sociales, ce sont les nouveaux salariés qui deviennent acquéreurs des parts sociales de ceux qui partent à la retraite, par exemple.
Pourquoi ça doit être forcément comme ça? Est-ce qu'on peut pas imaginer d'autres formes? Parce qu'on a toujours une forme de propriété.
On peut imaginer qu'une collectivité locale voit un intérêt social à la production de cette entreprise-là et qui aussi son droit de regard.
Ça peut être sous cette forme-là, mais ça peut être d'autres formes aussi. C'est pas si l'entreprise est un bien commun, elle devient à ce moment-là, elle est transmise avec un droit d'usage à ceux qui la font fonctionner, qui la développent, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils en sont propriétaires.
Non, ils en sont propriétaires en nom collectif, c'est-à-dire chacun ne peut pas vendre sa part.
Ils ne sont pas propriétaires, ils ont la responsabilité, je préfère utiliser le mot responsabilité,
oui,
ils ont la responsabilité de développer cette entreprise pour le bien commun. Qu'ils y aient un intéressement, etc., ça c'est une autre... C'est une question réelle, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont propriétaires des bénéfices de l'entreprise.
Ah oui.
C'est ça, cette nuance-là.
Je parlais pas de dividendes, moi. Je parlais de responsabilité, effectivement.
Et oui, mais à ce moment-là, ça enlève toute la question de la propriété.
Oui, mais
toute la question de la propriété personnelle de l'entreprise.
Alors, si on reprend par exemple la première remarque qu'avait faite André Bellon, on décide. Alors, on va savoir qui c'est, mais que ça y est, on n'utilise plus du tout de phytosanitaire dans l'agriculture. Bon. Il y a des agriculteurs qui continuent à vouloir faire ça. On les sanctionne, on les en empêche, on leur interdit, on les saisit, on fait ce qu'on veut. Et ils veulent pas rentrer dans la logique de, je sais pas moi, de groupement collectif pour se partager la façon que les terres ont d'avoir été organisées, que certaines sont meilleures pour le maïs parce qu'elles sont arrosées naturellement par ruissellement, et d'autres où il n'y a pas besoin, voilà. On a une vision un peu globale du territoire et de l'utilisation géologique pour faire de la nourriture. Mais un gars, lui, il est propriétaire d'un terrain et il décide que, de toute façon, il a toujours pompé là et il va continuer à pomper là. Il est propriétaire. Là, il faut réformer la loi pour avoir une possibilité de faire jouer sur la façon qu'il a.
Bien sûr, c'est
de
incontournable.
Produire. C'est incontournable. Donc, il faut plus d'État dans votre hypothèse.
Non, il faut plus de démocratie.
La loi, c'est pas l'État. L'État est soumis lui-même, il est chargé au mieux de faire respecter la loi. Il n'est pas censé la faire. Un des reproches qu'on peut faire au système actuel, c'est qu'il y a une telle confusion entre les pouvoirs qu'effectivement, il fait tout. Hein, il fait la loi, il la contrôle, il est jugé parti. Ça c'est tout sauf la démocratie, soyons sérieux. Bon. Mais c'est pour ça que ça ne peut pas continuer, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que moi, je crains que ça mène... On voit très bien à quoi ça peut mener. Ça peut mener à une demande d'autorité réelle. C'est-à-dire, puisqu'aussi bien l'autorité, mais qu'elle fonctionne pas, donnez-nous en une qui fonctionne. Ça existe, cette demande-là. Elle a déjà existé en France. Hein. Napoléon III est un peu issu de ça, d'une certaine façon. Napoléon Ier, d'une autre manière. Bon. Il peut y avoir donc ce besoin d'autorité qui mène à des régimes parfaitement autoritaires. Et c'est une option qui existe, il faut le savoir. Et qui répond à une espèce de truc qui n'a aucun sens, qui est contradictoire, et qui est surtout contraire à ses propres principes.
Mais pourtant, on nous a tous éduqués dans l'admiration de Colbert.
Attendez, moi je soupçonne personnellement qu'il y avait une forme de participation... On pourrait pas dire citoyenne à l'époque, puisque c'était encore que dans les villes, il y avait des villes libres, il y avait des formes qu'on peut appeler citoyens. Bon. Je soupçonne qu'il y avait une vie locale qui quelque part était peut-être plus forte qu'aujourd'hui. Nous avons dans les rangs de l'Association pour une constituante une historienne de française de la Révolution qui s'appelle Florence Gautier, qui a beaucoup écrit sur le rôle des démocraties communales, et en particulier au Moyen-Âge. Il y avait des formes de ce genre. Bon, aujourd'hui, on est en train de remettre en cause les formes de démocratie communale, toutes les atteintes qu'il y a contre les collectivités locales depuis quelques années, les départements, les communes, les régions qu'on découvre un peu n'importe comment. Bon. Donc, c'est pas Colbert. Oui, bien sûr, il y a une vision de l'État en tant que émanation du roi. Pour lui, c'est le roi. Mais le roi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité de vie au niveau communal. C'est pas vrai. C'est plutôt aujourd'hui qu'on arrive à ça.
Alors moi, il y a une chose qui m'a toujours passionné et que j'aimerais pouvoir résoudre, mais je suis pas assez ras d'archives, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans les cahiers de doléances de préparation des États généraux ? Est-ce que tout ça remontait de la France de 1788 ?
Alors, vous savez que nous sommes très attachés à ça. Si vous... Ah ben non, vous n'avez pas encore lu une autre. Nous essayons de demander à nos cercles, puisque nous sommes organisés en cercle. C'est-à-dire que, bon, comme toute association, on a déposé des statuts, donc il y a un bureau national, mais qui est plus un bureau administratif qu'un bureau politique, vous voyez ? C'est-à-dire que sous réserve de respecter les statuts, qui disent un certain nombre de choses, être attaché à la démocratie, au suffrage universel, et à un certain nombre de valeurs humanistes et républicaines, les cercles, après, font ce qu'ils veulent. Mais il faut qu'il y ait ces principes qui nous relient. Donc, c'est quelque chose qui est plus un réseau, si vous voulez, qu'une organisation pyramidale. Et donc, nous avons demandé à nos cercles s'ils le veuillent bien, mais je crois qu'ils sont assez tentés par la chose, de créer des rassemblements, là où ils le peuvent, pour recueillir ce qu'on appelle... Alors, on a changé le nom parce que doléances, ça fait un peu rapport au roi. Hein. Mmh. Alors, on a mis cahier d'exigences qui nous paraît plus adapté à la période. Bon... Parce que vraiment, doléances, ça fait vraiment un peu soumis qui va demander qu'on soit gentil avec lui. Hein. Bon, donc on appelle ça les cahiers d'exigence. C'est pas, on a laissé la rime, par contre. Bon, et on demande donc au cercle d'essayer de créer des événements sur les marchés, en lien avec les communes, s'il y a des communes qui veulent y participer, et demander aux citoyens de venir s'exprimer. Alors, les cahiers de doléances, on en a beaucoup parlé sous la Révolution française. C'était ni aussi génial, ni aussi mauvais que certains l'ont dit. C'est-à-dire que c'est vrai que le fait que c'était par étapes supprimait parfois de la substance de ce qu'il y avait dans l'étape antérieure. Mais il est arrivé pas mal de choses. Et il y a pas mal de règlements et de lois qui sont issus de ce cahier d'oléances. Là, écoutez, il y a des historiens en pagaille qui ont écrit là-dessus. Hein. Là, je ne vais pas me substituer à eux.
Vous n'avez qu'à lire, monsieur l'animateur de Radio Bonheur.
Bah oui, quoi. Bah oui, enfin, non. Quoi. Mais lisez Florence Gauthier, je vous assure, elle est très... Et d'ailleurs, je vais vous dire plus simplement. Vous allez sur notre site, ce qui me permet de dire www.pourunieconstituante.fr, tout lié. Le dernier article, c'est-à-dire le premier en tête... C'est une émission, nous avons un lien avec une radio associative qui s'appelle Radio Aligre, qui est dans le nord de Paris. Et la dernière émission, c'est avec Florence Gauthier qui parle de ça, justement. Donc, elle dure presque une heure, elle est très intéressante.
Sinon, on peut aussi voir les www.democratieevolutive.fr, c'est animé par Michel Allou, on peut avoir un peu des liens vers... Parce que j'ai vu que comment dépolluer l'économie, vous avez des conférences d'une heure cinquante consultables par Internet. Donc ceux qui auront raté lundi soir à Caylus peuvent quand même être repêchés. Comment dépolluer l'économie en 1h50, vous ne pouvez pas faire plus court.
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal que j'ai réussi à le faire en 1h50.
Oui, parce que là, vous avez un deuxième ouvrage qui est quoi, sous presse, qui va paraître.
Il faut que je m'y mette. Il faut que je l'écrive. Je n'ai pas encore commencé parce que je suis trop pris par différentes choses. Mais c'est la suite qui traitera justement du capital, du travail et du foncier immobilier. Comment les sortir de l'économie.
Qu'est-ce que vous pensez de la première décision des révolutionnaires cubains qui était que nul ne peut être propriétaire de plus de deux logements ? C'est à l'âge, ça.
Oui, c'est à l'âge, oui. C'est à l'âge. C'est toujours difficile pour moi de dire, de prendre position sur quelque chose comme ça, si on n'a pas d'abord parlé du fond. C'est toujours la question, est-ce qu'on a d'abord une stratégie avant d'avoir éclairé d'abord les points causaux, causalité. C'est-à-dire que si on remonte au point de départ, on va d'abord regarder, mais qu'est-ce que c'est que la propriété est-ce qu'on peut traiter la propriété de la même façon pour un logement ou pour une entreprise ou pour une voiture? On a tendance à toujours avoir une définition qu'on veut appliquer à tous les domaines. Et ça, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Et j'ai l'impression que c'est une des causes de dysfonctionnement de notre société.
Voilà une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas assez médiatisé, à mon avis, c'est que vous voulez aller au fond, au lieu de faire des phrases à l'emporte-pièce.
Et pourquoi vous êtes là à nous parler?
Que n'importe qui reprendrait en 12 secondes, il a dit ça, vous rendez compte? Merci André Bellon, merci Michel Laloux. Moi je rappelle que democratieévolutive.fr pour suivre le travail de Michel Laloux et
www.pouruneconstituante.fr.
Merci à vous deux.
Merci à vous. I don't.